C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Très bien, parfait. Un expert de hockey inattendu qui se révèle aux Québécois. Il y en a quelques-uns, mais Gabriel Nadeau-Dubois, le député solidaire, est un de ceux-là. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, il avait prédit à l'occasion de son 31e anniversaire que le Canadien gagnerait là dans son 7e match contre les Maple Leafs de Toronto par le score de 3-1. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, Montréal a gagné 3-1 et là, le député solidaire joue encore au Nostradamus avec une prédiction qui a été faite au début de la série contre Las Vegas. Gabriel Nadeau-Dubois est au bout du fil. Monsieur le député, bonjour.
Bonjour, monsieur l'animateur.
Bien, quelle était votre prédiction? Rappelez-nous donc ça.
Ben oui, suite à ma prédiction chanceuse contre les Maple Leafs, j'ai été assailli de questions, à savoir... quelle serait ma prédiction pour la suite des choses. Et quand on s'est ramassé contre Vegas, eh bien, on m'a demandé une prédiction et j'ai regardé l'horaire des matchs. Et bien, j'ai vu que le 6e match se tiendrait à Montréal le jour de la fête nationale. Je me suis dit, c'est exactement de ce conte de fées-là dont on a besoin au Québec pour se remettre de l'année qu'on vient de vivre. Donc, j'ai dit, Montréal en 6 avec une victoire, donc le soir de la fête nationale. Et là, ben les astres sont en train de s'aligner et je souhaite avoir raison, bien sûr, une deuxième fois.
Mais est-ce que les gens sont étonnés, Gabriel Nadeau-Dubois, que vous connaissez très, très bien votre hockey?
Oui, les gens sont étonnés. Je pense qu'il y a une certaine perception de moi comme un gars très intellectuel, très, très engagé dans la société, mais un peu obsédé seulement par ces choses-là. Puis je pense qu'il y a une perception de la gauche aussi comme étant une famille politique qui lève le nez sur ces choses-là. Ça m'a toujours dérangé, moi, ces préjugés-là. Et donc, je me fais un vilain plaisir de les déconstruire en démontrant qu'on peut être un gars de gauche, on peut être un intello et être un fan fini de hockey quand même. Il n'y a rien de contradictoire là-dedans.
C'est un de vos seuls points en commun avec François Legault, qui connaît lui aussi très bien son hockey.
C'est un point qu'on a en commun. Puis d'ailleurs, ça va me faire un sujet de discussion avec lui. Il y avait plus de difficultés à parler de hockey avec Manon. Je vous dirais que ça ne marchait pas très bien.
Non, mais ben, plus sérieusement, où vous vous situez sur tout le débat là, qu'on semble avoir oublié, comme ça faisait des siècles que ça s'était passé, sur le visage québécois du Canadien?
Je fais partie des gens qui trouvent ça dommage. Cette faible représentation des Québécois au sein du Canadien de Montréal. Le hockey professionnel, le Canadien de Montréal au Québec, c'est important. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre récit collectif. Et les grands clubs de sport sont souvent des clubs qui sont enracinés dans leur société. Pensons au FC Barcelone, en Catalogne, c'est pas une équipe comme les autres. Pensons aux grands clubs de soccer en Amérique latine. C'est pas des clubs comme les autres. Le sport, ça fait partie de la société. Puis c'est normal, je pense, pour une base de partisans que de souhaiter se voir représenté dans l'équipe de leur enfance, dans l'équipe de leur rêve sportif.
Dites-moi, vous êtes un amateur de hockey. Pour une chronique, je me suis même déjà... oui, je suis allé avec vous au Centre Bell pour aller voir un match. Oui. Mais là, quand vous encouragez le Canadien, notre club, vous encouragez des millionnaires qui jouent pour des milliardaires, des proprios milliardaires, oui. Est-ce que vous sentez des fois qu'en encourageant tout ça, vous trahissez vos racines solidaires?
C'est une bonne question parce que... disons, si on regarde ça à première vue, on pourrait dire, ben voyons, le gars, il se bat pour mieux répartir la richesse, il se bat pour plus de justice sociale, puis il participe à cette espèce de grand cirque capitaliste que sont les sports professionnels. Je comprends ce point de vue-là. En même temps, on peut pas avoir la tête dans la politique 100% du temps. On vit dans une société où il y a des bons, des moins bons côtés. Moi, le sport, j'aime ça. Je joue au hockey, j'aime le hockey, puis j'ai pas envie de m'empêcher de vivre cette passion-là parce qu'en effet, on vit dans une société où il y a des inégalités. Je pense qu'il faut être capable d'assumer ces contradictions-là. Ça m'arrive aussi d'embarquer dans une voiture, ça m'arrive aussi de boire un Coca-Cola, même si c'est pas la compagnie la plus éthique au monde. Un moment donné, il faut vivre. Il faut surtout il faut pas mettre, je pense, trop de pression sur les choix individuels des gens. Il faut profiter de la vie aussi un peu.
Si on n'a pas de contradiction, on n'est pas humain.
Ah ben voilà, que celui qui n'a pas de contradiction jette la première pierre.
Bon, ben merci beaucoup, M. Nadeau-Dubois, puis on espère que votre prédiction va se réaliser, que le Canadien va gagner demain.
Je le souhaite aussi. Quel beau moment ce serait, quel enthousiasme, quelle frénésie, puis on a eu une année tellement difficile, ça conclurait l'année sur une note presque magique.
Faites bien de le rappeler, et bon été, bonnes vacances.
Vous aussi.
Merci. Salut.
Au revoir.
C'était Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin pour Québec solidaire. Bon, il faut se le dire, la campagne de vaccination au Québec est un succès. Il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient parié là-dessus, je dirais, là, au mois de décembre l'année passée, au mois de janvier. Pourquoi? Ben, écoutez, c'est notre système de santé. On sait que le service à la clientèle dans les soins de santé est pas toujours optimal. Ben, le ministre Christian Dubé en a fait une obsession de faire de cette campagne de vaccination un succès. Le 22 juin, hier, a marqué sa première année comme ministre. Il est au bout du fil. Monsieur Dubé, bonjour!
Bonjour, M. Lagacé.
OK, on va parler de... Écoutez, tout le monde a célébré le succès de la campagne de vaccination. Parlons un peu des problèmes quand même. La vaccination des jeunes, ça demeure un problème. On va décortiquer ça. Les 12-17 ans à Montréal, là, les statistiques sont sorties. Seulement 55 % sont vaccinés. Est-ce que le ministère est à court de solutions?
Pas encore. En fait, on a un taux global de 75 % pour les 12-17 à l'échelle du Québec, mais effectivement... À Montréal et à Laval, c'est plus bas. Il y a des grandes polyvalentes, par exemple, où on est passé peut-être au début du processus qu'il faut retourner. Dans certaines communautés culturelles ou religieuses, il y a des enjeux. On doit trouver d'autres façons. S'il faut que je retourne sur TikTok, je vais le faire, mais je l'ai dit un peu à la blague, mais il faut s'ajuster à la clientèle. Je pense que, je vous le dis, globalement, 12-17, on est rendu à 75 %, c'est très bon, mais on aimerait ça qu'on ait 75 % partout, ce qui voudrait dire qu'on rejoindrait à peu près notre moyenne de 80 % parce qu'il y a des endroits qu'on a plus que 75. Donc, il s'agit de bien cibler certaines régions, particulièrement dans Montréal et Laval.
Mais vous l'avez mentionné, les communautés culturelles, il y a une difficulté à les rejoindre, ces gens-là. Je veux lancer de roche à personne, mais qu'est-ce qui fait que les communautés... ethniques, les communautés religieuses sont plus difficiles à rejoindre?
Bien, en fait, je vais diviser le problème en deux, là, sans être trop technique, mais lorsqu'on tombe dans le bas de la fourchette de 12-17, entre 12 et 14 ans, ça nous prend l'autorisation du parent pour être capable de vacciner. Alors donc, dans ce cas-là, c'est le parent qu'il faut rejoindre et non l'enfant. Et pour les rejoindre, bien souvent, puis j'ai parlé à des responsables de communautés culturelles cette semaine là, ou ethniques, et qui me disent qu'il faut retourner sur Facebook, parler aux parents, leur expliquer les bienfaits de la vaccination, comment ça va être important pour le retour à l'école. Donc, il y a une communication pour les 12-14 à faire avec les parents.
Okay.
Dans le cas des plus vieux, ben c'est peut-être nos médiums qu'on doit ajuster, comme je fais tantôt, là, quand je vous parlais de TikTok, par exemple, les gens veulent pas lire, ils veulent voir des petites vidéos courtes qui expliquent les bienfaits. On est en train d'identifier des influenceurs. Il faut pousser encore le bouchon un petit peu plus loin pour rejoindre tout ce monde.
Les 18-39 sont aussi considérés là, comme les jeunes, même si c'est une grande cohorte démographique. Les 18-39 sont aussi là, parmi les plus réfractaires à la vaccination. Monsieur Dubé, il y a eu la carotte. Là. On est allé à eux, il y a eu les campagnes de vaccination cool, on vous a vu en faire une vous-même. Il y a un vaccinobus. Avez-vous un bâton quand même dans votre coffre à outils?
Ben moi, j'aime pas le bâton, pour être honnête avec vous, là, surtout lorsqu'on parle de vaccination. Je pense qu'il faut convaincre puis donner les bonnes explications. Moi, pour cette clientèle-là, dans les prochaines semaines, je pense que les gens doivent comprendre qu'il va y avoir des avantages à être doublement vaccinés. Là. Il faut je vous donne juste l'exemple de ceux qui vont aller aux États-Unis, ceux qui veulent être capables de voyager même à l'extérieur en Europe. Il va y avoir des exigences au niveau du transport, d'avoir des preuves vaccinales pour être capable de voyager au cours des prochains mois, parce qu'on sera probablement dans une continuité, puis je fais attention à mes mots, là, mais on le sait, là, le fameux variant, il est partout dans le monde, puis c'est pas tout le monde dans le monde qui est vacciné. Donc, c'est à nous de bien expliquer, surtout à ceux qui voyagent le plus, là, ces gens-là qui vont avoir besoin de cette preuve vaccinale-là. C'est des petits avantages, vous allez me dire, mais on est dans les... Là, on peinture les coins de mur. Là. On n'est plus dans le gros rouleau avec la peinture sur le mur. On est en train de faire les petits détails. Puis c'est correct. Je pense qu'on est tellement content d'avoir 80% de la population, mais il est normal que dans certaines catégories, il faut travailler un petit peu plus fort, mais je pense qu'à date, ça va très bien.
Dans le coffre à outils, vous me parlez de vous avez pas aimé l'expression « le bâton ». Parfait. Vous me dites que pour voyager, ça va prendre des preuves vaccinales. Les gens vont moins souvent en Floride qu'ils vont dans les bars, dans les restos. Est-ce que ça, c'est dans le coffre à outils d'exiger une preuve de vaccination pour des activités semblables?
Pas pour le moment. Je pense pas qu'on va avoir besoin d'être là. Parce que si on atteint d'abord, vous vous souvenez, on a 80% à obtenir. Le premier 80%, on l'a déjà pour la première dose. Pour la deuxième dose, on est à 20%. Et si on a la vitesse de croisière qu'on a en ce moment, M. Lagacé, là, 1 à 2% par jour, c'est ça qu'on vaccine en ce moment, en deuxième dose, on n'aura pas d'enjeu d'être à 75-80% à la fin d'août. On n'aurait pas besoin de bâton. Et c'est là qu'on serait capable d'avoir, et c'est ça que les gens doivent voir comme objectif, c'est d'être capable d'aller dans les bars, parce qu'on a encore des restrictions dans les bars, le nombre de personnes, etc. Donc, ces gens-là là, qui se promènent, là, qui ont beaucoup de contacts, là, les 20-40 ans, ben moi, je veux leur dire, à l'automne, il faudrait dans un environnement où on va être un des meilleurs pays au monde avec le meilleur taux de vaccination, autant comme on a réussi pour la première dose parce qu'on est à 80, mais qu'on veut la même chose dans la deuxième dose. Donc, c'est ces petits avantages-là qui vont faire qu'au lieu d'avoir encore quelques restrictions dans les restaurants, dans les bars, dans les spectacles, qu'on serait capable d'avoir un centre Bell qui soit complètement ouvert pour accueillir nos gagnants de la Coupe Stanley.
je vais revenir sur le hockey tantôt. Parlons de la suite des choses dans le système de santé. Écoutez, le système de santé a été capable de piloter une campagne de vaccination qui, comme le Canadien de Montréal en série, a beaucoup surpris là, dans les deux cas. Personne ne les attendait à l'endroit où ils sont présentement. Mais écoutez, il y a des problèmes dans le système. L'accès à des médecins de famille, aux urgences, voir un médecin aux urgences rapidement, sans attendre des heures et des heures, la pénurie d'infirmières. Tout ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça va être plus difficile à régler que la campagne de vaccination?
Bien, c'est plusieurs enjeux. Là. Avec la campagne de vaccination, on avait un gros enjeu, c'était de vacciner. Quand vous me parlez de nos gros cailloux, là, tout ce qu'on a à faire en termes d'urgence, soins à domicile, oui, c'est sûr. Sauf que les gens sont fiers, puis on a prouvé que le réseau était capable lorsqu'on se donnait des objectifs clairs, puis qu'on allait chercher non seulement la fierté, mais la connaissance de notre réseau. Tout le monde était même surpris de la qualité du service à clientèle qu'on avait dans les centres de vaccination. Mais vous savez quoi? Dans nos hôpitaux, là, une fois qu'on est rentré dans le système, les gens apprécient la qualité des services qu'ils ont. Alors, moi, mon objectif, c'est d'être capable de faire rentrer les patients, les clients, le plus facilement possible dans le réseau. On va avoir accès, par exemple, rattraper nos chirurgies, mais c'est de rentrer dans la machine. Être capable lorsque vous êtes sur une liste d'attente de soins à domicile, de rentrer plus facilement sur la liste. Donc, on l'a vu qu'on est capable d'accueillir ces gens-là dans la vaccination. Il y a un système de rendez-vous qui a très bien fonctionné. Alors, je pense qu'on est capable de prendre tous les beaux succès qu'on a eu dans notre dossier urgent, j'appelle, et transférer ça dans nos priorités là, pendant qu'on se prépare pour l'automne.
Mais il y a quand même un problème d'accès. Là. Vous êtes le ministre de la Santé depuis seulement un an, mais vous vivez au Québec, M. Dubé, vous l'avez vu aller, ce système-là. Là. Est-ce que c'est un problème d'argent ou d'organisation?
C'est pas un problème d'argent parce qu'on pompe énormément d'argent. Je pense qu'il y a un enjeu, particulièrement de main-d'œuvre. On l'a vu, là, on avait un personnel qui était épuisé dans la dernière partie, là, dans les 6 derniers mois, parce que ça faisait trop longtemps. Moi, je suis excessivement content qu'on ait réussi à s'entendre, notamment avec nos infirmières dans les derniers jours. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et avec le reste du personnel de santé, là, Mme Lebel fait un très bon travail à finaliser les négociations. Mais on a promis que notre personnel se reposerait cet été. Moi, je pense qu'on peut repartir sur des nouvelles balises travaille avec, pour l'automne, je travaille avec Mme McCann pour aller chercher d'autres infirmières, un peu comme on a fait avec les préposés aux bénéficiaires. On en a ajouté. Je pense qu'on peut ajouter du personnel. C'est pas vraiment un enjeu de ressources financières. C'est vraiment un enjeu de mettre le bon personnel à vous. Mais de leur donner un environnement de travail où ils sont pas toujours épuisés. Je pense qu'on a montré que dans les CHSLD, ça a fait une grosse différence d'avoir ajouté à peu près 8-9 000 personnes. Ben, je pense qu'il faut faire dans des chiffres différents, mais la même chose avec notre personnel infirmier. Et ça va donner un environnement de travail meilleur pour nos employés, puis encore plus important pour nos patients.
Si le Canadien passe en finale, il va avoir de la pression pour que le Centre Bell accueille plus que 3 500 personnes. Cette pression-là, est-ce que c'est une variable qui va influencer la santé publique?
Non. Pour être très clair, là, moi, je suis... je fais attention parce que je suis un peu superstitieux. Là. On va attendre le match, on va attendre le match de... le dernier match, le fameux 24, imaginez-vous quand même. Là, Régent Tremblay, dans son...
Lancé-compte.
Dans son lancé-compte, pourrait en rêver d'un scénario comme ça. Mais sérieusement, jusqu'à date, vous l'avez vu, le docteur Arruda, il a pris des décisions difficiles. Puis c'est une des raisons, avec son équipe, qu'on l'a suivi, puis qu'on est dans la bonne situation où on est aujourd'hui, que les Québécois peuvent profiter de leur été. On va dire ça comme ça. Alors... je pense que nos Canadiens sont capables de gagner avec peut-être un plus petit public, mais avec le grand public qui sent derrière.
Merci.
Je vais laisser le docteur Arruda finaliser ça dans les prochaines heures.
Ben merci, M. Dubé. On vous souhaite de prendre au moins quelques jours de vacances cet été.
Bon, avec plaisir. Vous êtes certain que je vais en prendre.
Merci beaucoup.
Puis vous aussi, M. Lagacé, et à toute votre équipe.
Je vais essayer, mais vous avez travaillé plus fort que moi cette année.
Non. On a tout fait ça ensemble. Merci beaucoup.
Salut.
Bonnes vacances.
C'était Christian Dubé, le ministre de la Santé.
Patrick Lagacé en accéléré.
Bon, on va parler de choses un peu pratico-pratiques. Vous le savez, on ne peut pas toucher à son téléphone cellulaire quand on est au volant. Parlez-en à Denis Coderre, même si vous êtes à un feu de circulation, sous aucun prétexte. Saviez-vous qu'il y a peut-être même un problème avec le fait de toucher une vapoteuse, si vous êtes un vapoteur ou une vapoteuse? On en parle tout de suite avec Maître Éric Lamontagne. Il est avocat. Maître Lamontagne, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, dans la presse aujourd'hui, je suis un peu tombé des nues. Il y a un automobiliste qui a été sanctionné parce qu'il a manipulé sa vapoteuse. Quel était le problème?
Ben, la problématique, c'est que les gens sont restés pas mal avec l'impression qu'on était toujours dans une situation où on parle de cellulaire au volant, alors que la loi a changé il y a quelques années. On parle maintenant de distraction au volant. Et dans les distractions au volant, l'article est bien clair. Là. On peut parler d'un écran. Et quand on parle d'un écran, là, il faut que ce soit un écran tactile ou un écran qui diffuse d'informations ou à laquelle on peut donner de l'information. Et là, l'article dit, y compris celui d'un appareil portatif. Dans ce cas-là, ce qui est important de comprendre, c'est que si jamais on utilise un écran quelconque, si petit soit-il, parce que c'est ce que le juge a conclu, on ne doit absolument pas utiliser rien sur lequel il y a un écran qui donne l'information, à part quand c'est pour de l'information relative à la conduite automobile et que cet appareil-là est sur un support qui est fixe à la voiture.
Donc, le tableau de bord, on peut le manipuler si c'est pour si c'est pour aider à la navigation du véhicule. Mais si on manipule notre vapoteuse, c'est un problème. Si on vapote, est-ce que c'est un problème?
Non, là, on parle vraiment de la distraction au volant pour cet article-là, 443.1 du Code de la sécurité routière. Et je veux juste apporter une petite correction, Patrick, si vous me permettez. Quand on parle, en fait, l'utilisation, ce n'est pas pour nous donner de l'information, par exemple, pour la navigation. La navigation, si on doit aller quelque part du point A au point B, on doit s'assurer que notre appareil est prêt et toutes les directions sont données avant de partir. Si on veut, par exemple, moi, je donne un exemple. Si notre écran nous donne, par exemple, vous m'excuserez l'anglophone, là, l'expression anglophone de « check engine », comme on dit, mm-hmm. Et là, on pèse sur un bouton et ça nous dit qu'on a de la pression basse, admettons, dans notre pneu, dans nos pneus. Ça, c'est de l'information relative à ma conduite automobile et non pas aux directions où je veux m'en aller, qui, ça, est un travail de GPS et ça doit être fait avant de partir.
OK. Dans le cas qui nous occupe, là, le monsieur qui a manipulé sa vapoteuse, le problème, est-ce que c'était qu'il manipulait sa vapoteuse pour vapoter ou, comme il l'a dit au juge, il était en train de changer les paramètres sur le petit témoin lumineux de sa vapoteuse?
Ben, là, évidemment, j'ai pas les faits de la cause précis qui me dit pas s'il avait une conduite erratique ou non. Ça, je le sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que le juge s'est exprimé clairement en disant que quand il y avait une manipulation de cet écran-là, il disait lui-même qu'il utilisait les réglages. Et au moment où il utilise les réglages, ben il rentre dans l'article 443.1 qui vient nous expliquer justement qu'on ne peut pas utiliser quelque forme d'écran qui va, autrement dit, nous donner de l'information ou en recevoir. Alors donc, cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est que elle utilise les réglages. Évidemment, je connais pas les vapoteuses, mais y a-t-il quelque chose qui peut nous permettre d'avoir des vapotés plus forts, moins forts, la température, peu importe. Il y a une manipulation qui se fait d'un écran et c'est une application très stricte, je vous dirais, de l'article 443.1.
OK, vous êtes avocat chez Contravention Expert, Maître Lamontagne. Rappelez aux gens en terminant, là, on ne peut pas toucher notre téléphone cellulaire quand on est dans l'habitacle.
Non, c'est très important. Dites-vous quelque chose. Dès qu'on a un appareil en main, à ce même article-là, il y a une présomption d'utilisation de l'appareil. Donc, vous allez devoir repousser cette présomption-là. Le meilleur conseil que je peux donner aux gens, là, c'est un article qui est en pleine évolution avec les tribunaux. C'est interprété de plein de façons différentes parce que la technologie est de plus en plus, qui progresse de plus en plus. Donc, faites attention et évitez toute situation qui pourrait amener une confusion entre vous et le policier. Que le policier voit quelque chose et que lui interprète ça d'une certaine façon, quand même que vous plaideriez votre cause auprès du policier, il va vous remettre un constat et il va vous dire que c'est le juge qui décidera. Alors faites attention, ne manipulez rien et l'objectif, c'est de se concentrer sur la conduite automobile.
Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Bonne fin de semaine.
Merci, bonne journée.
C'était Maître Éric Lamontagne.
Patrick Lagacé en accéléré.
On va parler de hockey. On sait que c'est une religion. On dit souvent ça, ah, le hockey au Québec, c'est une religion. Et on va en parler avec notre spécialiste des religions, Alain Pronkin. Salut Alain.
Oui, comment ça va?
Très bien, toi aussi, j'espère. Écoute, en 2009...
Oui, je suis prêt pour demain.
En 2009, tu as écrit La religion du Canadien de Montréal. Qu'est-ce qui fait que le Canadien, c'est quasiment une religion?
Oui, bien, ce qui fait, c'est que c'est un sujet d'étude. Je n'étais pas tout seul, on était quand même un groupe de 9 personnes qui avons écrit le livre, là, parce qu'on a essayé de trouver, est-ce qu'il y a des modèles qu'on peut utiliser pour comprendre le mécanisme de fonctionnement des religions? Fait qu'on essayait de savoir, bon, est-ce qu'il y a une expérience religieuse? Moi, je disais oui, parce qu'on a une fondation du Canadien de Montréal créée par Jean Béliveau, Guy Lafleur et M. Boivin. Mais on essayait d'étudier les différents aspects, le rite, tout ça. Et c'est à partir de ça qu'on a dit, bien, il y a beaucoup de similitudes entre une religion et le Canadien. Même Foglia, à l'époque, disait tout simplement, il dit, dans nos pays impies, le sport est la dernière église, où l'on communie en masse, où l'on se rassemble en esprit du moins pour rêver, pour exulter ensemble, pour se projeter dans une équipe, si c'est pas là de la foi, puis ça c'est Foglia. Mais on l'a souvent associé sport et religion, que ce soit au football, au soccer, au baseball, on a juste la malédiction de Babe Ruth, c'est un exemple. Mm-hmm. Fait que le langage religieux, on l'a souvent utilisé, puis souvent on me demande d'où ça vient la Sainte Flanelle?
D'où ça vient la Sainte Flanelle?
Sainte Flanelle. On pense, la première expression écrite revient en 1975 à Régent Tremblay. C'est lui qui l'a utilisé pour la première fois dans un billet là, sur une analyse sportive. Mais souvent, on a ce langage-là religieux, juste à penser tous les sacres qu'on va entendre pendant une partie de la part des partisans. On a au niveau, regarde, puis ça, là, les miracles. Parlons des miracles. Carey Price fait des miracles devant les buts. Hey, on l'entend.
On l'a même appelé Jesus Price.
Oui, et pourquoi on l'appelle Jesus Price? Parce que c'est là la question. Pourquoi? Parce que sur un de ses casques, pas celui qu'il y a actuellement, mais un qu'il y avait juste avant, c'était écrit John 3:2.16. Ça veut dire quoi, le John 3:2.16? C'est l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 16, qui dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. » hey, le Jesus Christ, c'est pas loin. Et il fait des miracles, faut le reconnaître. Écoute, c'est pas possible quand on regarde les parties. C'est pas possible. Puis en plus, demain, on a un match de la Saint-Jean-Baptiste.
Oui, puis il y a eu un match du Vendredi Saint.
Du Vendredi Saint qui est devenu mémorable. On a eu du sang effrayant. On a eu de la torture. Et là, on va avoir un match de la Saint-Jean-Baptiste. C'est jamais arrivé.
Et il y a aussi eu, le chapelet en famille à la radio de CKAC.
Oui.
Dis-nous, c'était où dans la grille horaire?
Dans la grille horaire, c'était avant les matchs de hockey. Donc, à partir de 1950, il y avait le cardinal Léger qui voulait faire son chapelet en famille. On lui a permis. Fait que lui, il commençait vers 7 heures. Ça a déplacé les grilles horaires à tel point qu'un homme et son péché, le Séraphin Poudrier d'origine, Radio-Canada était obligé de le changer d'heure pour éviter d'être en conflit. Et par la suite, bon, on sait qu'au niveau du hockey, on voulait pas présenter tous les matchs. Au début, c'était juste les troisièmes périodes. Mais dis-toi qu'on avait un chapelet. Puis après ça, on avait le hockey. Quelques instants plus tard, peut-être une heure plus tard, on avait du hockey. Donc, dans le rituel des gens, pourquoi on se demande, tout le monde, on va faire nos prières? Et on fait nos prières.
J'ajouterais un dernier élément, puis tu ne me l'as pas envoyé dans tes notes, mais la Coupe Stanley, ça ressemble un peu à un calice.
Oui, c'est ça, c'est le Saint Graal. Quand on boit dans la Coupe Stanley, on a la vie éternelle. À toute fin pratique, mais c'est essentiel. Et oui, c'est de la métaphore souvent, mais on se reconnaît dans notre cube qui va aller gagner la Coupe Stanley. Écoute, on a même un prophète, Ron Fournier, qui l'a dit cette année, c'est la Coupe.
J'ai juste une chose à dire, Alain Pronkin, et c'est pas Go Habs Go, c'est Amen. Merci beaucoup.
Merci. Bonne journée.
Salut, Alain Pronkin, spécialiste des religions.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.